Il y a un père qui m'a écrit ce matin, qui me parle de son fils de, qui a 6 ans aujourd'hui, qui avait 5 ans, donc c'est récent, et qui avait tout raconté ce qui se passait avec la gardienne, à son père, à sa mère, et aussi au procureur et à l'enquêteur du SPVM. Et c'est le cas d'une éducatrice qui maltraitait sa sœur, il a vu ça, lui, et une autre fillette de 22 mois. Et finalement, grâce à ce signalement et à l'enquête qui a été faite, le verdict est tombé, la personne a été reconnue coupable, au moins. T'sais. Mais c'est hallucinant, toute cette maltraitance qui est faite aux enfants. Et je vais en parler avec Katia Gagnon, qui travaille sur les dossiers de maltraitance de DPJ depuis des années et qui nous propose une série balado en 3 épisodes sur la DPJ avec son collègue Martin Tremblay. Ce sera disponible à compter d'aujourd'hui. Katia, bonjour.
Bonjour, Paul.
C'est toujours assommant d'entendre des cas comme ça, là, aussi de violence, de maltraitance. Puis on sait que c'est pas simple, ces histoires-là, d'enfants, puis de signalements, puis est-ce qu'on ferme le dossier, puis la DPJ se fait blâmer de trop intervenir, des fois pas assez. Comment t'as vu l'évolution de la DPJ dans les dernières années d'abord?
Ben, écoute, commençons par la fin. Hein. Je te dirais que l'année 2019-2020 pour la DPJ, ça a été l'équivalent, comme disait la reine d'Angleterre, d'une annus horribilis. Hein. Il y a eu, là, on parle d'une accumulation de cas à Granby. On parle de de ce que je me souviens des derniers mois, 3 cas là, vraiment très problématiques. La petite qui est décédée, l'enfant dont on parlait hier, et il y avait aussi une fratrie là, qui avait été retrouvée avec des chiens dans la maison. Donc, 3 cas très problématiques. Rappelons-nous la situation de Wendake, où les enfants avaient été signalés et finalement est arrivé ce qui est arrivé, un geste terrible du père. Et il y a eu un cas à Montréal aussi cet été où la mère avait été signalée à la DPJ et elle a fini par tuer sa petite fille de 6 ans. Donc, ça fait beaucoup, Paul. Ça fait beaucoup d'événements extrêmement tragiques pour une seule organisation. Je te dirais que ces problèmes-là qu'on voit présentement, à mon avis, ils émanent de problèmes qui sont là depuis des années. Mais qui ont été, je te dirais, cristallisés en 2015, là, au milieu des années 2010, donc en partie par la réforme Barrette, où, disons, le financement a été restreint. On s'est mis à fonctionner vraiment avec des impératifs budgétaires très, très serrés. Et c'est comme si cette organisation-là, les gens qui y travaillent, hein, tu le sais comme moi, les gens qui travaillent là, la très grande majorité de ces gens-là sont des bonnes personnes qui veulent bien faire et qui ont à cœur l'intérêt de l'enfant. Mais c'est comme si, dans les dernières années, il y a une espèce de machine administrative là, qui avait pris le pas sur la façon de travailler avec les enfants et qui empêche parfois ces gens-là de faire leur travail correctement. Et c'est ça qui est triste et c'est ça qu'on a voulu essayer de montrer avec ce podcast, donc que j'ai fait en équipe avec mon collègue Martin Tremblay, qui en est le réalisateur, mais aussi l'idéateur. Donc, on s'est dit, on va aller voir, partant du drame de Granby, qu'est-ce qui se passe avec la DPJ? Comment ça se fait que cette organisation-là s'est retrouvée au milieu d'une telle crise? Qu'est-ce qui explique ça?
Il y a plein d'angles que vous allez aborder, c'est sûr, là, dans cette série balado, mais je pense encore à des décisions de cour, des jugements de cour, où il y a des ordonnances où on prévoit qu'un enfant doit être évalué, doit être suivi, qu'il doit avoir un plan pour l'encadrer, l'accompagner quand il y a des problèmes, par exemple, de santé mentale, des problèmes de comportement. Et c'est là que tu découvres que dans bien des cas, malheureusement, il n'y a pas de suivi parce qu'il n'y a pas de ressources et surtout que ça peut prendre des mois avant qu'on découvre qu'on n'a pas fait le travail, qu'on l'a échappé.
Oui. C'est le meilleur exemple de ça, on l'a écrit la semaine dernière, je pense, dans la presse, où c'était cette petite fille, tu en as parlé, donc ouais. Cette petite fille de 7 ans qui était en grave trouble de santé mentale à tel point qu'elle avait été hébergée dans un centre de réadaptation. Une enfant de 7 ans dans un centre de réadaptation, là, c'est rare. Hein? D'habitude, quand ils sont petits comme ça, on ne les met pas dans des centres parce que c'est vraiment pas la place d'un enfant si jeune. Et cet enfant-là, il y avait une ordonnance là, hein, pour qu'elle voie un pédopsychiatre. Et ça a pris deux ans, Paul, avant que ça se concrétise. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Au départ, le contrat, là, quand on a fait les CIS et les CIUS, puis qu'on a intégré les DPJ dans ces organisations-là, le contrat qu'on leur avait dit à ces gens-là, c'est « ben vous allez avoir des corridors de service, ça va être bon pour vous, ça va vos enfants, ils vont être vus plus vite par des médecins, ils vont être vus plus vite par des psychiatres. » Mais ce qu'on constate sur le terrain, c'est que c'est pas vrai. Ça s'est pas réalisé, cette chose-là. Les enfants, ils sont en la DPJ, qui sont en trouble important. Ils ne sont pas vus plus vite. Donc, dans ces organisations-là, les DPJ se sont retrouvés avec tous les désavantages et aucun avantage. Hein? Donc, et le respect des ordonnances, comme tu dis, ça c'est un point. Hein, c'est un secteur problématique à la DPJ. L'autre secteur qui me semble problématique, c'est celui de l'évaluation. Parce que là, on a des cas qui se multiplient, là, d'évaluations qui sont rentrées. Celui d'hier, du jeune, est absolument incompréhensible. Comment se fait-il qu'on soit jamais allé dans cet endroit-là? C'est impensable. Parle à n'importe quelle personne qui fait de l'évaluation pour le DPJ, ils vont dire, ben oui, la première chose, c'est faut y aller. On peut pas rien que parler à la personne au téléphone, ça n'a pas de sens. 10 signalements. Ce cas-là, moi, ça me rentre pas dans la tête, là, comment ça a pu arriver. Donc, l'évaluation, le respect des ordonnances, qui n'est pas toujours de la faute de la DPJ, hein, le respect des ordonnances, non. Parce que c'est souvent le système de santé qui répond pas, là. Donc, eux, ils essayent de le faire voir, par exemple, un psychiatre à l'enfant, mais ils sont pas capables. Puis l'autre secteur qu'on a découvert également dans la dernière année et demie, c'est cette grande étude, l'étude sur le devenir des jeunes placés, qui pour la première fois, donc c'est un chercheur accompagné justement d'un comité d'ex-jeunes de la DPJ qui a dit, ben on va regarder c'est quoi qui arrive avec ces jeunes-là une fois qu'ils sortent de la DPJ. Donc, on va prendre un échantillon. Ils ont pris 1200 jeunes à peu près qui avaient 17 ans au moment du début de l'étude. Ils étaient dans les services de la DPJ et ils allaient sortir dans l'année qui suit. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qui ces jeunes-là? C'est quoi leur bilan scolaire? Qu'est-ce qui va leur arriver? Ben, ces résultats-là sont pas reluisants là, pour la DPJ. Là. Donc, les enfants placés, le bilan est pas... c'est vraiment pas optimal. Par exemple, on a des jeunes qui ont une scolarité extrêmement faible. Il y en a à peu près le quart qui sortent des services de la DPJ qui avaient réussi à obtenir leur DES à 19 ans, comparativement, bien sûr, à 80% des jeunes ordinaires là, qui passent pas par les services de la DPJ, mais comparativement aussi à plus de la moitié des jeunes en difficulté. Donc, les jeunes en difficulté dans nos écoles, ils en ont des difficultés scolaires, eux autres aussi. Puis, il y a à 60%, ils réussissent à obtenir leur diplôme, puis 25% seulement des jeunes de la DPJ. Il y a quelque chose qui fonctionne pas là.
Ça, c'est
là.
clair. Enfin, les trois épisodes sont en ligne depuis 7h15 ce matin, donc c'est accessible pour les gens. Série balado de 3 épisodes. Merci beaucoup, Katia. Bonne journée.
Merci à toi, Paul.
Au revoir. J'ai écouté le premier épisode. Puis ça nous permet de probablement plonger dans un univers dont on entend énormément parler. Mais là, c'est vraiment une approche qui va vous permettre de probablement, je pense, bien comprendre puis être encore plus sensible à ce qui se passe. Et je rappelle que lundi, on aura les premiers commentaires de la commission Laurent. Premières observations. Et ça aussi, c'est attendu. C'est attendu de voir quelle doit être l'orientation. Puis je le disais hier, c'est important d'enfoncer le clou, de prendre des décisions dans l'intérêt de l'enfant, pas du père ou de la mère biologique. C'est quoi qui est bon pour un petit bonhomme de 5 ans, 6 ans, 7 ans et un ado de 17 ans? Comment on prend les décisions dans ces dossiers-là?